VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Nouakchott, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité américaine. Suite ce vendredi du sommet nucléaire de Washington avec la Corée du Nord au centre des préoccupations. Des précisions avec Félix Yepassi Zembrou.
Réuni jeudi en marge du sommet, le président Barack Obama, son homologue Park Geun-hye et le premier ministre japonais Shinzo Abe ont fait front commun contre les récents nucléaires et missiles de la Corée du Nord. Des actes qualifiés de provocation par le chef de l'exécutif américain. Les trois leaders ont réitéré leur engagement à assurer la défense mutuelle de leur pays. Ils ont aussi averti qu'ils pourraient prendre d'autres mesures pour contrer les menaces de Pyongyang. Barack Obama a eu des entretiens séparés avec le président Xi Jinping, la Chine étant ce que la Corée du Nord compte de plus proche comme allié. Le président américain a dit par la suite que son homologue chinois et lui sont d'accord pour une application intégrale des dernières sanctions onusiennes contre le régime de Pyongyang. Toutefois, le président Xi n'a donné aucun signe d'un désir d'aller au-delà de ce qui a été convenu début mars au Conseil de sécurité concernant la Corée du Nord.
Afrique maintenant, Union africaine, la présidente de la commission de l'Union africaine, Kosazana Dlamini-Zuma, ne briguera pas un second mandat et quittera son poste à la tête de l'organisation panafricaine en juillet, a annoncé aujourd'hui son porte-parole. Les aspirants à la présidence de la commission avaient jusqu'à jeudi soir minuit pour faire acte de candidature. Madame Dlamini-Zuma n'a pas brigué une nouvelle fois ce poste, selon Jacob Eno Eben, son porte-parole. Le successeur de l'actuelle présidente de la commission sera désigné lors du prochain sommet de l'Union africaine en juillet à Kigali. Seront également choisis l'adjoint du chef de la commission ainsi que les 8 commissaires du groupe. L'Union africaine ne dévoilera officiellement les noms des candidats retenus qu'à la mi-avril. Madame Dlamini-Zuma a été la première femme à accéder à la tête de l'organisation panafricaine. Au Tchad, un journaliste brièvement interpellé pour son poisson d'avril sur le président Idriss Déby Itno. Mahamat Tahir Sougoumi de la radio nationale tchadienne a été appréhendé ce matin pour avoir annoncé en guise de poisson d'avril le désistement du président sortant Idriss Déby Itno pour la présidentielle du 10 avril. Dans son édition matinale, le journaliste a précisé que le chef de l'État appelait désormais à voter pour le candidat d'opposition Brice Mbaimong Getbay, un des 14 aspirants à la magistrature suprême. Immédiatement après l'annonce, Mahamat Tahir Sougoumi a été brièvement arrêté par des agents de l'ANS, l'Agence nationale de sécurité. L'affaire aurait été transférée à la police judiciaire. Et puis au Burundi, un célèbre humoriste connu sous le nom de scène de Kikingi a été arrêté mardi par le service national de renseignement SNR du Burundi pour outrage à chef de l'État. Le comédien est depuis détenu au secret, selon sa famille. Dans un sketch qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, l'artiste raconte comment le président Nkurunziza, grand amateur de football, refuse de quitter le terrain après avoir reçu un deuxième carton jaune, en expliquant que pour la présidence aussi, il avait brigué un troisième mandat, alors même que la Constitution le lui interdisait. Gabon, le président de l'Assemblée nationale gabonaise, Guy Nzouba Ndama, a démissionné officiellement hier de ses fonctions à l'approche de la présidentielle de 2016. Guy Nzouba Ndama, 70 ans, est membre du PDG au pouvoir et se trouve au perchoir de l'Assemblée depuis 1997. Mardi, trois autres barons du PDG, Michel Menga, Jonathan Itnouba et Alexandre Barreau-Chambrier, ont créé un courant frondeur au sein du parti, mais ils ont été destitués de leur mandat. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba, de passage à Washington pour le sommet sur la sécurité nationale, réagit à la démission du président du Parlement.
Je suis surpris, car ce n'est pas du tout ce que me laissait entendre la dernière conversation que j'ai eue avec lui. Bon, maintenant, il m'a écrit une lettre, je n'ai pas lu cette lettre. Je ne peux pas spéculer, faire de commentaires particuliers. Si le président du parti est en même temps président de la République, il est le candidat naturel du PDG. Et c'est ce qui se fait un peu partout dans le monde. Un président sortant a toujours un avantage.
Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, au micro d'Idriss Fall.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, inquiétude pour l'organisation de la présidentielle alors que le calendrier électoral dans le pays reste toujours suspendu aux tensions entre les autorités, la Commission électorale nationale et l'opposition. La société civile donne de la voix et elle dénonce les répressions dont sont objets ses animateurs depuis au moins un an. Floribert Anzoulouni, coordonnateur du Front Citoyen 2016, dénonce en particulier les commentaires du président de la CENI qui n'exclut pas de pouvoir introduire une requête auprès de la Cour constitutionnelle en vue d'un report des élections.
La loi exige la publication d'un calendrier. Le calendrier n'est toujours pas publié. La déclaration, la dernière déclaration de M. Nanga est une déclaration extrêmement dangereuse et illégale et inconstitutionnelle. Tout simplement parce que, premièrement, M. Nanga n'a pas le pouvoir, ni constitutionnellement, ni légalement, de faire une requête auprès de la Cour constitutionnelle pour demander à ce que l'élection présidentielle qui est constitutionnelle soit organisée au-delà du délai. Deuxièmement, la Cour constitutionnelle n'est pas non plus habilitée, suivant la même constitution, à émettre un avis sur une requête qui leur serait transmise par rapport à ce même point-là. Donc M. Nanga, en posant cet acte-là, confirme ce que nous disons depuis toujours, la CENI est manipulée, est au service des autorités, au service du pouvoir, et donc est en train de jouer aujourd'hui la stratégie du glissement, qui est une stratégie très dangereuse parce qu'elle peut nous emmener dans une situation d'instabilité et de chaos.
Floribert Anzoulouni, coordonnateur du Front Citoyen 2016 en RDC. On passe à l'Afrique de l'Ouest. Controverse en Mauritanie au sujet d'une éventuelle levée de la limitation des mandats en faveur du président Mohamedou Abdelaziz, venu au pouvoir par un coup d'État en 2008, élu en 2009 et réélu en 2014. La majorité des Mauritaniens ou tout le peuple mauritanien estime que le président mérite un troisième ou quatrième ou cinquième mandat, a déclaré cette semaine le porte-parole du gouvernement mauritanien Mohamed Lemine Oulchek. Des propos qui font débat dans le pays. Pour un éclairage, Timothée Donogmaya joint Cédric Jourde, professeur de sciences politiques à l'Université d'Ottawa et spécialiste de la Mauritanie.
Pour l'instant, si j'ai bien compris, ce sont surtout des gens dans l'entourage présidentiel qui émettent cette idée. Si jamais la Mauritanie allait dans cette direction-là, ben elle serait tout simplement la 12e qui parviendrait à changer la constitution pour permettre au président de rester en place.
L'opposition mauritanienne est naturellement contre une telle idée, mais quel est son poids politique aujourd'hui?
Ça va dépendre de sa capacité à mobiliser la rue, j'ai envie de dire, d'une part, et d'autre part, des acteurs importants de la communauté internationale. Parce que si on regarde dans le voisinage de la Mauritanie, il y a le cas du Burkina Faso. Quand Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina, a voulu changer la constitution, une partie importante de la population est descendue dans la rue pour dénoncer cette tentative de coup d'État constitutionnel. Et je pense qu'il y a aussi eu des pressions, notamment des alliés occidentaux du Burkina. Et donc, Compaoré a dû céder. Et au Niger, quand le président Tanja a voulu faire la même chose, ben, c'est un coup d'État finalement qui l'a empêché parce qu'il avait décidé d'aller de l'avant. Alors vous voyez, ça va dépendre de la capacité de l'opposition à faire un peu ce que l'opposition burkinabé a fait, c'est-à-dire de mettre suffisamment de pression sur le président. Mais c'est pas juste l'opposition, c'est les organisations de la société civile, peut-être des organisations plus informelles aussi.
Quel rôle ont joué les organisations régionales et continentales comme la CEDEAO ou l'Union africaine face à ces tendances à ôter les limites de mandat?
Il y a eu des rôles assez paradoxaux, j'ai envie de dire, parce que, par exemple, dans le cas du Burkina, la CEDEAO a été critique, mais de manière très soft. Ça n'est pas là d'où est venue la pression la plus forte. Dans le cas du Burundi, par exemple, on avait mandaté trois présidents pour aller essayer de donner raison ou en tout cas de dénouer les fils de la crise au Burundi, mais deux des trois présidents étaient eux-mêmes des gens qui étaient venus au pouvoir par coup d'État. Donc en fait, idéalement, il faudrait que ceux qui discutent avec le président qui veut changer la constitution soient des gens qui eux-mêmes sont issus de pays où on respecte à 100% la constitution.
Cédric Jourde, professeur de sciences politiques à Ottawa et spécialiste de la Mauritanie. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.